Bonjour à tous, bienvenue sur Les Nouveaux Chemins.
Quelle a été votre première impression en arrivant en Amérique ?
C'est le paradis ici. Ah ! La deuxième heure a commencé, vous savez ce que ça veut dire.
Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Voilà peut-être le plus étrange des aphorismes étrangement abrupts dans lesquels le poète René Char condensa l'essence de ce que 4 années dans la Résistance en étaient venues à signifier. Or, sans testament, il semble qu'aucune continuité dans le temps ne soit assignée et qu'il n'y ait humainement parlant ni passé ni futur, mais seulement le devenir éternel du monde et en lui le cycle biologique des êtres vivants. Comprendre et transmettre notre héritage, c'est ce à quoi travaille quotidiennement l'équipe des Nouveaux Chemins grâce à Antoine Ravon, Lucie Tardy, Marianne Chasseur et Colomba Grossi, avec Nicolas Berger à la réalisation cette semaine, Yanis Djoudad à la prise de son, et celle que vous retrouvez du lundi au vendredi à 10h51 pour ces 2 minutes papillon, c'est Géraldine Mosna-Savoie. Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à tous. Une enquête anthropologique aujourd'hui parue aux éditions Luxe. Une enquête menée par Gabriela Coleman dans le monde des Anonymous, hackers, activistes, faussaires, mouchards et lanceurs d'alerte.
Rendez-vous à 10h51. Ce que je propose est très simple, rien de plus que de penser ce que nous faisons. En une phrase que l'on trouve dans le prologue à La condition de l'homme moderne, publié en 1958, Hannah Arendt saisit l'essence du métier du philosophe au XXe siècle. La crise de la culture, publiée quelques années plus tard, part du même constat de l'écart croissant entre ce que nous faisons et ce à quoi nous pensons. Pourquoi est-il si difficile de donner un sens à nos actions ? L'apparition de régimes totalitaires au XXe siècle, fondés sur l'usage systématique de la terreur, a fait basculer la civilisation européenne dans le non-sens. Nous sommes devenus les témoins de la faillite de toute la tradition de la pensée occidentale. Et dans ce contexte, impossible de continuer à distinguer impunément la pensée de l'action, la théorie de la pratique, ou pour reprendre deux expressions qui lui sont chères, la viva contemplativa de la viva activa. La crise de la culture rassemble 8 articles rédigés de 54 à 64, traduits en France en 1972 seulement, dans lesquels Arendt interroge la modernité en crise. Ces articles, nous dit-elle dans une préface magistrale, ne présentent pas l'unité d'un tout, mais celle d'une succession de mouvements à la manière d'une suite musicale. Et pourtant, au fil des textes, sa plume ne se contente pas de proposer différentes variations d'un même thème. Ce sont les symptômes d'une humanité fragilisée qui sont auscultés avec la précision d'un médecin et la lucidité de celle qui aime trop le monde pour lui tourner le dos et l'enfermer dans des formules préfabriquées. La lecture de ces articles, qui interrogent tour à tour le concept d'histoire, la crise de la culture et celle de l'éducation, l'essence de l'autorité et de la liberté, ou encore les rapports entre vérité et politique, procure une satisfaction rare chez le lecteur, celle d'assister enfin à des tentatives d'application des modes de pensée aux problèmes immédiats, actuels, auxquels nous sommes quotidiennement confrontés. Quel est l'objet de notre pensée ? Demandait Arendt avant de répondre. L'objet de notre pensée, c'est l'expérience. Cette série d'émissions est organisée en partenariat avec Philosophie Magazine qui propose ce mois-ci un hors-série consacré à Hannah Arendt. Et Philosophie Magazine, c'est là où travaille mon invité de demain, Michel Elchaninov, qui viendra vous parler du dernier texte de la crise de la culture sur la conquête de l'espace, qui pour Arendt est une manière de mesurer la juste dimension de l'homme dans l'histoire des sciences. Mercredi, ce sera Anne Dalsuet qui vous expliquera ce qu'il faut entendre par crise de l'éducation. Et jeudi, Étienne Tassin qui s'interrogera avec Arendt, bien sûr, sur l'essence de la liberté entre métaphysique et politique. Mais aujourd'hui, pour commencer cette semaine arendtienne, c'est le philosophe Jean-Claude Poisat, qui enseigne la philosophie au lycée Joliot-Curie de Nanterre, qui vient vous expliquer en quel sens la philosophe diagnostique une crise contemporaine de l'autorité. Bonjour Jean-Claude Poisat.
Bonjour.
Ma impression dominante, mon impression dominante, see, this is not a nation state. America is not a nation state.
Mon impression dominante, c'est que l'Amérique n'est pas un État-nation. Et les Européens ont beaucoup de mal à comprendre ce simple fait qu'ils devraient pourtant théoriquement connaître. Ce pays n'est uni ni par un héritage, ni par des souvenirs, ni par le sol, ni par la langue, ni par une origine identique.
There are no natives here.
Il n'y a pas d'Américains authentiques ici, les Indiens mis à part. Tout le reste, ce sont des citoyens, et ces citoyens ne sont unis que par une seule chose, et c'est beaucoup. On devient citoyen des États-Unis par simple acceptation de la Constitution.
By simple consent to the Constitution. The Constitution, that is a scrap of paper, according to...
La Constitution, du point de vue français ou allemand, n'est qu'un morceau de papier. On peut la modifier. Mais ici, c'est un document sacré. C'est le souvenir constant d'un acte unique et sacré. L'acte de fondation des États-Unis. Nous pouvons donc dire que dans ce système politique, c'est la loi qui règne et non pas les hommes.
C'est un extrait du documentaire filmé de Roger Herrera sur l'ORTF qui date de 1974. Jean-Claude Poisat avec donc la voix d'Hannah Arendt qui commence en français. Elle oscille dans cette interview entre le français, l'anglais, l'allemand. C'est un documentaire passionnant qui fait un excellent point d'entrée dans cette semaine et dans cette émission en particulier, puisque non seulement elle se situe aux États-Unis quand elle rédige les articles qu'on en retrouve recueillis dans le livre qui nous occupe cette semaine, La crise de la culture, mais aussi la question de l'autorité qui nous occupe aujourd'hui. Et chez Hannah Arendt, d'abord politique. C'est le constat qu'elle fait dans ce qu'on vient d'entendre, Jean-Claude Poisat.
Oui, effectivement, vous avez raison, c'est un très très beau documentaire et le son de la voix d'Arendt est très émouvant et ce qu'elle dit est d'une actualité toujours très frappante et très étonnante, surtout en ces temps justement, on dit qu'il y a beaucoup question de constitution en France également. Et elle rappelle un certain nombre de choses souvent très élémentaires mais qu'on oublie, donc effectivement les États-Unis ne sont pas un État-nation et puis il y a aux États-Unis quelque chose qui n'existe peut-être pas en France qui est effectivement une sorte de respect sacré pour la Constitution qui a à voir en effet avec la fondation politique et avec la notion d'autorité. Voilà. Paradoxalement, justement, les États-Unis sont, selon Arendt, le pays où on a peut-être le mieux réussi ou le moins mal échoué dans cette entreprise de fonder un ordre politique durable et permanent, puisque la Constitution américaine peut être amendée, mais au fond, elle n'a pas été... c'est la même, elle n'a pas été modifiée, alors que nous écrivons des constitutions, nous, c'est une sorte de brouillon, je n'irai pas jusqu'à dire un torchon, mais enfin quelque chose qui est sans cesse raturé, barré, modifié, comme si au fond on n'y attachait pas une réelle importance. Voilà. Donc ça c'est un point qui est politiquement extrêmement important et qui est très révélateur aussi d'une conception de la politique et de ce qu'on appelle parfois le vivre ensemble.
Et surtout on y trouve l'importance de la fondation des États-Unis dans et par cet acte de constitution. Or, dans l'article « Qu'est-ce que l'autorité ?», Arendt propose de nombreuses réflexions sur la notion de fondation comme étant la source de l'autorité, notamment dans l'Empire romain.
Oui, alors la question de la fondation, en fait, c'est, si vous voulez, son jeu de mots, c'est la question fondamentale chez Arendt et selon elle dans la pensée politique en général. C'est à la fois le point de départ et le point d'arrivée, on pourrait presque dire, de toute sa réflexion politique. Donc c'est une question très vaste et très complexe. Mais enfin, l'objet de notre discussion aujourd'hui, je pense, c'est l'autorité. Mais l'autorité, en effet, a à voir avec la fondation. Alors, pour dire les choses simplement, à l'époque moderne, disons, nous avons un problème, c'est qu'effectivement, les sociétés modernes sont en quelque sorte des sociétés auto-fondées. Enfin, la société française s'est fondée elle-même à partir de la Révolution française. La Révolution, c'est la tentative de la société de fonder un ordre politique par ses propres moyens, finalement. Donc, sans l'aide, justement, d'une tradition ou de valeurs transcendantes qu'elle puiserait dans un passé lointain. Mais paradoxalement, en même temps, ce que dit Arendt, c'est que les révolutions doivent trouver en elles-mêmes leur propre fondation et peuvent devenir à leur tour, d'une certaine façon, aussi une sorte d'autorité. D'ailleurs, il y a une sorte, de tradition des révolutions, c'est-à-dire qu'une révolution va servir en quelque sorte de valeur de référence pour une autre révolution. Donc, il y a toute une tradition, ce qu'elle appelle une tradition cachée, ou ce qu'elle appelle aussi le trésor perdu des révolutions, et qui fait que nous sommes à la recherche d'un principe d'autorité transcendant, donc au-dessus de la politique, mais en même temps, ce principe d'autorité, nous ne pouvons le trouver réellement que dans notre propre pratique politique et par nos propres moyens, sans l'aide et sans le secours d'une quelconque transcendance. Donc nous sommes dans ce double bind, ou cette espèce de contradiction qui est le cœur même de la situation politique contemporaine.
La question étant de savoir sur quoi se fonde l'autorité, dès lors que ce n'est pas forcément sur une tradition, ni, nous dit-elle, sur la violence, ni sur la persuasion. Écoutez un extrait tout de suite de Qu'est-ce que l'autorité, donc un des chapitres de La crise de la culture, interprété par la comédienne Lara Brühl.
Puisque l'autorité requiert toujours l'obéissance, on la prend souvent pour une forme de pouvoir ou de violence. Pourtant, l'autorité exclut l'usage de moyens extérieurs de coercition. Là où la force est employée, l'autorité proprement dite a échoué. L'autorité, d'autre part, est incompatible avec la persuasion qui présuppose l'égalité et opère par un processus d'argumentation. Là où on a recours à des arguments, l'autorité est laissée de côté. Face à l'ordre égalitaire de la persuasion se tient l'ordre autoritaire, qui est toujours hiérarchique. S'il faut vraiment définir l'autorité, alors ce doit être en l'opposant à la fois à la contrainte par la force et à la persuasion par argument. La relation autoritaire entre celui qui commande et celui qui obéit ne repose ni sur une raison commune, ni sur le pouvoir de celui qui commande. Ce qu'ils ont de commun, c'est la hiérarchie elle-même, dont chacun reconnaît la justesse et la légitimité, et où tous deux ont d'avance leur place fixée. Ce point est historiquement important. Un aspect de notre concept de l'autorité est d'origine platonicienne. Et quand Platon commença d'envisager d'introduire l'autorité dans le maniement des affaires publiques de la police, il savait qu'il cherchait une solution de rechange, aussi bien à la méthode grecque ordinaire en matière de politique intérieure, qui était la persuasion, qu'à la manière courante de régler les affaires étrangères, qui était la force et la violence.
Un président normal, ça doit être un président exemplaire. C'est-à-dire qui fait vraiment son travail de président. Si les Français votent pour un chef de l'État au suffrage universel, c'est pour que celui qui a été ainsi investi prennent toutes les responsabilités de sa fonction. Mais en même temps, il ne peut pas être le président de tout, décider de tout. Mais il faut que ce président puisse se rendre compte qu'il n'est pas forcément au-dessus de tout, et encore moins au-dessus des lois. Il faut qu'il soit donc à la fois proche et en même temps qu'il soit respecté, et donc pour cela qu'il soit respectable. Donc si je veux résumer ça d'une formule, être un président normal suppose des qualités exceptionnelles.
Le chef de l'État se tourne vers une figure tutélaire de la gauche, Jean Jaurès. Il célèbre le centenaire de sa mort. Il vient d'arriver dans sa ville à Carmaux dans le Tarn. Accueil très mouvementé, regardez.
Passez au petit nom, vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour ça, monsieur le président. Vous êtes venu à Carmaux il y a 2 ans et vous ne tenez pas vos promesses. Non, vous ne tenez pas dans le sens, monsieur le président. Pensez à nous, pensez à nous. Jaurès, il ne parlait pas comme vous. Et vous venez le saluer aujourd'hui, monsieur le président. Pensez-y.
Et voilà des difficultés d'incarner l'autorité. Sans violence, sans persuasion, hein, puisque Arendt prend soin de distinguer l'autorité et de la force et de la persuasion dans le texte qu'on a entendu, et avec une référence à un des pères fondateurs, cette fois-ci c'était Jaurès. Dans l'exemple américain, il y a tous les pères fondateurs qui étaient à l'origine de la Constitution, qu'on lui conteste. Dans l'extrait qu'on entend, on voit bien que là, la référence à Jaurès ne passe pas parce qu'il y a un écart trop grand entre Hollande et Jaurès. Est-ce que c'est une bonne illustration de ce qu'on appelle la crise de l'autorité aujourd'hui, selon Arendt, Jean-Claude Poisat?
Bah écoutez, oui, enfin c'est de toute évidence. Mais enfin, avant d'avancer juste sur la question donc de ce qu'est l'autorité, etc. Je voudrais insister sur un point. Enfin, Arendt insiste aussi de manière préliminaire dans son fameux article. Elle dit une chose, c'est que je pense qu'il faut vraiment le prendre au sérieux. Elle dit que nous ne savons plus ce que c'est que l'autorité. C'est-à-dire l'autorité a été perdue. Vous avez rappelé tout à l'heure le texte des Feuillets d'hypnose de René Char. Notre héritage est sans testament. C'est-à-dire le fil de la tradition a été rompu. Donc, c'est-à-dire que croire que nous saurions ce que c'est que l'autorité ou que nous aurions gardé un lien avec elle et qu'il irait de soi que l'autorité c'est ce... Non, rien ne va de soi et c'est précisément la raison pour laquelle Arendt fait cette enquête. Hein, je prends le mot au sens fort du terme. C'est son article est une enquête pour à la recherche de l'autorité perdue, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, je pense que ça, c'est vraiment important. Donc, nous n'avons plus la moindre idée de ce que signifie le mot autorité. Voilà. Nous vivons dans un monde où l'autorité a disparu, corps et âme. Bon, voilà. Et donc...
quand elle écrit ça, on est dans les années 60 aux États-Unis.
Absolument. Ouais. L'article date, semble-t-il, de 1955, exactement. Mmh. Donc, en 1955, elle établit que, de toute façon, enfin, on peut dire, elle considère que c'est l'après-guerre, si vous voulez, a établi de façon définitive et de façon éclatante pour tout le monde ce fait incontestable, l'autorité a disparu de notre monde. Elle dit même dans le texte, une formule que je trouve saisissante et qui est en même temps que je trouve très juste, elle dit c'est la perte de l'autorité, ça signifie la perte des assises du monde. Voilà. Nous avons perdu les assises du monde. Bon, nous sommes dans un monde qui n'est plus un monde et qui ne fait plus monde et qui ne, voilà. Et alors croire qu'on pourrait en quelque sorte raccommoder retisser des fils, qu'on pourrait comme ça recréer on dit souvent comme ça cette formule toute faite qu'on entend, il faut recréer du lien, etc. Non, ça se passe pas comme ça. C'est pas vrai. D'abord, ce que dit Arendt, il faudrait peut-être essayer de comprendre ce que ça a été, pour comprendre ce que ça n'est plus. Et donc se placer dans ce qu'elle appelle la brèche, c'est-à-dire il y a une brèche entre le passé et le futur, et nous sommes dans cette brèche, et il n'est pas pour l'instant question de créer des liens ou de jeter des ponts, mais d'abord de séjourner dans la brèche et de comprendre comment et pourquoi nous en sommes arrivés là, et ensuite peut-être on pourra reconstruire une pensée politique à la mesure du temps présent. Voilà. Mais souvent on ne prend pas au sérieux, on pense que ce sont juste des formules rhétoriques, mais ce ne sont pas des formules rhétoriques de la part d'Arendt, si vous voulez.
Et pour ce faire, pour essayer de définir cette crise de l'autorité, donc à savoir l'absence de sens dont serait investi le terme même d'autorité, elle procède de manière quasiment généalogique en passant en revue les différents types d'autorité dans l'histoire de l'humanité. Une référence est faite directement au platonisme à la fin du texte qu'on a entendu. Il y a aussi donc l'Empire romain que je citais, également le christianisme, trois types d'autorités différentes qui ne sont plus, qui sont désuètes.
Absolument. Alors en fait, bon, alors là, j'ai dit tout à l'heure, elle se lance dans une enquête très fouillée, très minutieuse, où elle élabore, enfin, elle examine les différents aspects de l'autorité, ce que ce terme a pu signifier à différentes époques, dans des contextes qui n'ont effectivement pas grand-chose à voir. Mais là encore, peut-être avant d'examiner ça, je voudrais rappeler aussi un deuxième point, c'est que, enfin, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est-à-dire aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est que l'autorité, ça veut dire que on a tendance à la confondre avec ce qu'elle n'est pas, et donc on la confond bien souvent avec le pouvoir. Alors, je rappelle qu'en latin, les mots auctoritas et potestas sont tout à fait distincts. Arendt cite Cicéron dans le Traité des Lois, hein, cum potestas in populo, auctoritas in senatus sit. Tandis que le pouvoir réside dans le peuple, l'autorité appartient au Sénat. Donc, c'est une distinction qui était très claire dans la pensée politique romaine, mais qui est devenue parfaitement confuse et incompréhensible dans la pensée politique moderne. C'est-à-dire, bien souvent, autorité, autoritarisme, pouvoir, tout ça se confond et se mélange. Ça, c'est une première confusion. Après, une autre confusion serait d'assimiler l'autorité à la persuasion, effectivement, à toutes les tentatives de négociation, de discussion qui permettraient au fond, par le dialogue, de trouver un terrain d'entente, etc. Elle dit, mais l'autorité, c'est pas ça non plus. Elle dit, à plusieurs reprises, elle dit, par exemple, quand un père négocie avec son fils, c'est qu'il a perdu toute autorité. Bon, donc, l'autorité, c'est pas ça. C'est pas la persuasion, c'est pas non plus la violence, ni le pouvoir, c'est encore autre chose. Mais quoi? Alors, bon, là, c'est là que l'enquête peut nous éclairer, en effet, et qu'on peut examiner les différents aspects. J'en ai évoqué un brièvement, qui est la pensée politique romaine, mais qui est la référence centrale, hein, à vrai dire, puisque c'est pour Arendt, enfin, le mot autorité, d'ailleurs, vient du latin, et le concept même est romain. Donc, c'est de là que ça vient. Au fond, Arendt explique que chez les Grecs, ça marche pas. Enfin, c'est emprunté, mais ça marche pas vraiment.
Le concept d'autorité ne marche pas ?
Non. Enfin, c'est-à-dire, je vais un peu vite, mais elle se réfère à Platon dans La République et à Aristote, et elle explique que, elle dit, les philosophes grecs ont entrepris de grandioses tentatives philosophiques pour essayer de fonder l'autorité dans la pensée politique grecque, mais elle dit c'est un échec. Bon, voilà, c'est
alors, politique c'est un... ou philosophique ?
Les deux. Enfin, Platon a connu un échec politique avec Denis de Syracuse en Sicile, et puis il a connu un échec philosophique selon Arendt, hein, bien sûr, on peut discuter, mais enfin Arendt estime que Platon a connu un échec philosophique, mais un échec grandiose, c'est-à-dire un échec dont nous sommes les héritiers aussi, c'est-à-dire l'impossibilité de concilier la philosophie avec la politique. Enfin, là je vais très vite, mais il est évident que toute la pensée philosophique de Platon, d'une certaine manière, est une méditation sur le conflit entre la philosophie et la politique, à partir du procès de Socrate. Enfin, l'échec de la démocratie à accepter la figure du philosophe, et toute la pensée de Platon est une méditation sur cet échec et une tentative de pallier cet échec. Mais Arendt considère que la réponse de Platon est en quelque sorte un remède pire que le mal. Enfin bon, c'est... approfondir ce point, mais c'est voilà. Et quant à Aristote, elle montre que dans la politique, il y a des contradictions aussi terribles parce que, au fond, la réflexion politique fondamentale d'Aristote, c'est quand même une réflexion sur la police. La police, c'est la communauté des égaux, et dans une communauté d'égaux, il ne peut pas y avoir d'autorité. Enfin, c'est-à-dire, il ne peut pas y avoir de hiérarchie naturelle entre les individus. Donc, quand Aristote explique qu'il y a une hiérarchie naturelle entre les vieux et les jeunes...
Lui, il invoque la nature pour justifier une relation de domination dans le maniement des affaires.
Absolument, mais Arendt dit ça ne colle pas du tout avec sa conception de la police. Donc c'est une contradiction, que ça ne marche. Donc elle dit, au fond, ça ne marche pas. La seule ère civilisationnelle dans laquelle l'autorité fonctionne, c'est l'ère civilisationnelle romaine, qui d'ailleurs, la pensée romaine est beaucoup moins philosophique que politique en réalité, politique et juridique, et elle dit c'est là où ce concept prend toute sa mesure et donne toute sa portée. Voilà. Donc là, ça nous ramène au concept d'auctoritas, qui renvoie effectivement à une conception romaine selon laquelle les hommes sont liés au passé par la tradition, par la religion, par l'autorité. Ils sont renvoyés à la fondation mythique de Rome, 753, qui permet aux Romains d'ailleurs de dater toute leur histoire, etc. Enfin, toutes ces choses-là sont connues et sont analysées par Arendt. Mais c'est dans ce contexte que la notion d'autorité trouve un véritable ancrage dans la réalité des hommes, dans la réalité vécue. Voilà.
À Rome, la fonction de l'autorité était politique et consistait à dispenser des avis, alors que dans la République américaine, cette fonction est juridique et consiste à fournir des interprétations. La Cour suprême tire son autorité de la Constitution en tant que document écrit, alors que le Sénat romain, les pères de la République romaine, tiraient la leur de ce qu'ils représentaient, ou plutôt, de ce qu'ils réincarnaient les ancêtres, dont le seul droit au pouvoir, dans le corps politique, était précisément de l'avoir fondé, d'en être littéralement les pères fondateurs. Par le truchement des sénateurs romains, c'étaient les fondateurs de Rome qui étaient présents, et avec eux, l'esprit de cette fondation, le commencement, et le principe de ces res gestae qui devaient former l'histoire du peuple romain. L'autorité, en effet, qui a pour racine étymologique le verbe augmenter, dépendait de la vitalité de l'esprit de fondation, en vertu de quoi il était possible d'augmenter, d'étendre, d'agrandir les fondations telles qu'elles avaient été posées par les ancêtres. La continuité ininterrompue de ladite extension et son autorité intrinsèque ne pouvait se poursuivre que grâce à la tradition, c'est-à-dire grâce à la transmission, à travers une lignée ininterrompue de successeurs du principe posé au commencement. À Rome, s'inscrire dans cette lignée ininterrompue de successeurs signifiait conserver l'autorité, rester pieusement lié par le souvenir et la conservation au commencement inauguré par les ancêtres. C'était être religieux, relié au passé, à ses commencements.
Combien j'ai tué d'hommes en tout ?
Eh bien, je ne sais pas.
J'ai cessé de compter il y a longtemps.
Mais beaucoup.
Et toi, Lucius ?
309 combattants. Je n'ai pas compté les civils.
Tu es très précis.
Il faut être précis quand on fait une offrande au temple de la guerre.
C'est beaucoup de vin et de chèvre.
Mais les prêtres accordent un rabais à partir de 100.
Les prêtres, ce sont des escrocs. Je m'adresse directement à n'importe quel dieu si j'ai besoin de lui. Merde aux prêtres.
Trop rares sont ceux qui respectent la tradition romaine. Je te félicite, Lucius.
Vorenus est un véritable catonien.
Je crois en la toute-puissance de la République si Caton pense de même. Oui, je suppose que je suis catonien.
Mais Caton défend les droits des patriciens. Un plébéien comme toi ne souhaite-t-il pas qu'il y ait des changements?
On doit maintenir ce qui était à la fondation de la République. Pourquoi est-ce que ça changerait?
Parce que le peuple romain souffre. Parce que les esclaves font tout le travail. Et que les nobles ont pris toutes les terres. Et parce que les rues regorgent d'affamés sans foyer.
Je ne savais pas que mon fils était un rebelle.
Les patriciens disent que César est un criminel de guerre. Ils disent qu'il veut marcher sur Rome et se proclamer roi.
C'est un sacrilège. Les hommes d'honneur ne le suivront pas.
Alors je ne suis pas un homme d'honneur. Parce que je pense que César devrait entrer dans Rome avec des éléphants pour écraser Pompée et Caton. Et tous ceux qui le gênent. Au diable la loi. Voilà ce que je dis.
Oui, tu parles comme ça parce que tu ne commandes ni ta raison ni ta parole.
Un extrait de l'excellente série Rome qui malheureusement n'a duré que 2 saisons et qui illustre à merveille le texte d'Arendt, donc tiré de la Révolution, l'importance des pères fondateurs et de la fondation au sein de l'Empire romain. Ce qu'il faut entendre dans ce texte, Jean-Claude Poisat, c'est l'importance de la fondation, si on en a parlé, mais aussi de la tradition. D'ailleurs, le personnage féminin le dit très bien. Quand on se fonde sur la tradition, eh bien, ça veut dire que l'autorité a un fondement objectif et transmissible. Or, celui qui s'oppose au tenant de cette position, au contraire, lui soutient Jules César, c'est-à-dire la possibilité d'un renversement de l'ordre établi.
Oui, alors, donc comme on disait tout à l'heure, l'histoire politique romaine est le cœur du sujet, et Arendt y consacre d'ailleurs un très grand nombre de pages dans son article. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que Arendt est à la recherche d'une expérience en fait historique sur laquelle justement les concepts feraient fond. Enfin, voilà. Et autrement dit, l'autorité, c'est effectivement une certaine organisation du pouvoir qui ne fait pas question, qui n'est pas l'objet de discussion, qui est admise au fond par tous ceux qui font partie du même ensemble social et politique. Donc effectivement, on voit là que c'est ce qui fait, si vous voulez, une sorte de consensus, mais ancré sur effectivement le passé et la tradition. Dès l'instant où on commence à se poser des questions, à discuter, à devoir argumenter pour savoir si c'est juste ou pas, ça veut dire précisément que l'autorité n'est plus là. Donc, l'autorité,
c'est ce qu'il y a un problème, alors. Ça veut dire que l'autorité est un concept anti-philosophique. On ne peut pas le discuter, on ne peut pas le mettre en question.
Eh ben, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Ça n'est pas philosophique, c'est politique. Tout à fait. Mais Arendt l'assume complètement. Enfin, c'est-à-dire, c'est en cela que les Romains sont préférés aux Grecs de ce point de vue par Arendt, parce que les Romains ont davantage la tête politique que philosophique. Et d'ailleurs, rappelons ici que Arendt était, d'une certaine manière aussi un peu anti-philosophe, si vous voulez, à sa manière, hein. Références sont un peu... Quand je dis anti-philosophe, c'est-à-dire elle fait de la philosophie contre la philosophie. Enfin, c'est un peu à la manière de Pascal, vous savez, la vraie philosophie se moque de la philosophie, enfin, ou la vraie morale se moque de la morale, etc. Donc la meilleure façon de faire de la philosophie, c'est de mettre en question la philosophie sur ses propres présupposés. C'est-à-dire, si philosopher, c'est remettre en cause les préjugés, eh bien, remettre en cause certains préjugés philosophiques, c'est encore philosopher, si vous voulez. Voilà. Donc elle philosophe contre les philosophes.
Oui. Et pourtant, elle tient à continuer d'exercer son activité de philosophe, alors même que elle avait commencé ses études universitaires avec une thèse sur Saint-Augustin, la notion d'amour chez Saint-Augustin. Les événements du siècle étaient tels qu'elle s'est sentie un peu, disons, contrainte de renoncer à des études exclusivement universitaires pour s'intéresser à l'actualité, mais elle tient à le faire de manière philosophique. C'est ça qui est passionnant chez elle. C'est qu'elle ne dissocie pas la pensée de l'action, la pensée en tant que philosophe sur l'action à laquelle elle assiste, et pour elle, penser en philosophe, c'est déjà agir.
Oui, non mais, encore une fois, quand je dis anti-philosophe, c'est au meilleur sens du terme, faut pas se méprendre là-dessus. Arendt a une grande estime pour les philosophes, et malgré d'ailleurs toutes les critiques parfois acerbes qu'elle peut faire à Platon, elle, à la fin de sa vie, elle a écrit des livres sur ce qu'elle appelle la vie de l'esprit, où elle consacre de longues analyses à la pensée des philosophes, notamment, elle parle énormément de Platon, donc elle rend hommage à la philosophie, mais en même temps, c'est, si vous voulez, alors c'est pas sans lien avec notre question de l'autorité, parce que justement, ce que je voulais dire dire tout à l'heure, c'est la question qui se pose parfois avec Arendt, c'est de savoir au fond si elle serait pas une sorte de nostalgique, enfin nostalgique justement de l'autorité, d'une époque où les philosophes, où les idées, où les valeurs avaient un sens, etc. Et aujourd'hui, ce serait plus le cas. Bon, la réponse, c'est, vous me pardonnerez, mais c'est oui et non. C'est-à-dire que, enfin, oui, Hannah Arendt est nostalgique, si on veut. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la nostalgie? Ça veut dire la douleur de constater que quelque chose n'existe plus. Donc ça, c'est la vraie nostalgie. Il y a ceux que j'appelle les faux nostalgiques, c'est-à-dire ceux qui considèrent que finalement, on pourrait peut-être quand même continuer de faire durer la tradition. Hein, on pourrait peut-être la faire un peu vivoter encore quelques temps. Mais ça, ce sont des gens qui n'ont pas compris que la tradition était morte. Arendt fait partie des gens qui pensent que la tradition est réellement morte, mais qui mesurent aussi tout ce qu'on a perdu en perdant ces traditions. Et cette perte est pour elle un deuil. Réellement, et ce deuil est une cause de souffrance, et elle exprime cette souffrance aussi certainement à travers ses travaux, son œuvre, à travers toute sa vie d'intellectuel engagé.
C'est ce constat-là, la question de savoir si elle est nostalgique ou pas, on la retrouve dans la distinction qu'elle fait dans ce chapitre sur l'autorité entre conservateurs d'un côté et libéraux de l'autre, et elle montre que finalement les deux ne sont que les deux revers d'une même médaille.
Absolument. C'est-à-dire que si on veut, un des points sur lesquels Arendt insiste beaucoup dans son article, c'est que l'opposition entre les libéraux et les conservateurs est en fait une sorte de fausse opposition. Les conservateurs seraient des gens qui feraient semblant de vouloir revenir à la tradition, et les libéraux sont des gens qui se réjouissent que la tradition meure à petit feu. Mais les uns et les autres, enfin, c'est une espèce de jeu de rôle, une sorte de comédie qui peut être tragicomique, mais c'est quelque chose d'assez superficiel parce que au fond, la tradition encore une fois est irrévocablement perdue. Donc les conservateurs ont tort de penser qu'on pourra revenir en arrière. Mais quant aux libéraux, ils auraient tort de se réjouir parce que le recul de la tradition n'entraîne pas nécessairement le progrès de la liberté. Loin de là, et au contraire même. Au fond, ce que dit Arendt, c'est que nous avons un déclin simultané et de la tradition et de la liberté. Bon, donc il y a pas de motif de se réjouir ni d'un côté ni de l'autre. Bon, encore une fois, on est peut-être dans une forme de pessimisme, une vision un petit peu sombre, mais en tout cas, il s'agit en aucun cas de penser qu'on pourrait faire continuer comme ça ou prolonger par des petits rabibochages quelque chose qui définitivement n'est plus.
Le libéralisme comme le conservatisme sont nés dans ce climat créé par les oscillations violentes de l'opinion publique. Et ils sont liés l'un à l'autre. Non seulement parce que chacun perdrait sa substance même sans la présence de son adversaire dans le champ de la théorie de l'idéologie, mais parce que tous les deux se soucient essentiellement de restauration et visent à restaurer soit la liberté, soit l'autorité, soit le rapport entre les deux dans leur position traditionnelle. C'est en ce sens qu'ils constituent les deux faces de la même médaille, de même que leurs idéologies du progrès ou de la catastrophe correspondent aux deux directions possibles du processus historique en tant que tel. Si l'on admet, comme le font le libéralisme et le conservatisme, qu'il existe quelque chose comme un processus historique avec une direction déterminable et une fin prévisible, il ne peut évidemment nous mener qu'au paradis ou en enfer.
C'est la révolution, le chaos, l'anarchie. C'est un scandale, tout est pourri. Mais que sont devenues nos vertus ancestrales? Je me dis ça tous les jours en lisant mon journal. Quand je demande une place dans le métro, on me répond: à ton âge, Jérémy, y a plus que l'hibernation. C'est beau le progrès, mais où va-t-on? Respectons, mes enfants, les bonnes vieilles traditions. Le bon Dieu, l'argent, l'école, le foyer et la cuisine. Les filles de mon temps ne se mettaient toutes nues que devant le docteur ou le petit Jésus. Aujourd'hui sur les plages, on ne voit que des paires de fesses. Mais jusqu'où irions-nous sans nos chers CRS? Comme disait mon voisin en prenant des photos, pour visiter la lune, pas besoin d'Apollo. C'est beau le progrès, mais où va-t-on? Respectons, mes enfants, les bonnes vieilles traditions. Le bon Dieu, l'argent, l'école, le foyer et la cuisine. Aujourd'hui, plus question de fonder un foyer, y a que les curés qui veulent se marier. Pourquoi donc s'empêtrer dans les liens du mariage, quand on peut faire tant de choses dans un sac de couchage?
Et même vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Il est 10h34 et c'est le premier temps de notre série d'émissions consacrée à Hannah Arendt en partenariat avec Philosophie Magazine qui lui consacre un hors-série ce mois-ci. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir le professeur de philosophie Jean-Claude Poisat qui enseigne la philosophie au lycée Joliot-Curie de Nanterre. Jean-Claude Poisat qui l'on doit une introduction à Hannah Arendt disponible aux éditions La Découverte, Pocket et également Intellectuel et juif en France aujourd'hui paru aux éditions du Bord de l'Eau en 2014.
Sur une voie de garage, foin des vieux idéaux, je vais m'acheter un vélo. Faut se mettre dans le ton, j'adopte mes enfants les nouvelles traditions. L'amour, l'amour, l'amour.
Alors revenons sur cette ambivalence que vous pointiez chez Arendt, Jean-Claude Poisat, notamment à partir de l'extrait que j'ai lu donc sur le libéralisme et le conservatisme comme étant finalement deux revers d'une même médaille, écrit Arendt. Il est vrai qu'on se pose beaucoup la question de savoir où elle-même se situe par rapport à ce constat qui est certes objectif, descriptif, mais on a du mal à voir ce que vous nommez la nostalgie, de quelle manière celle-ci est inspirée par une prise de position réelle où elle regrette que la tradition soit autant, disons, perdue, ou si au contraire, vous parlez de pessimisme, aussi au contraire, on peut aussi voir chez Arendt une forme d'optimisme, presque de foi, en la possibilité pour les hommes de construire un monde qui serait nouveau. Il y a vraiment les deux qui sont présents dans tous ces textes en tout cas.
Oui, non, mais quand je parle d'ambivalence, c'est aussi l'ambivalence du pessimisme et de l'optimisme. C'est-à-dire, là, le maître à penser de Arendt, enfin, du moins son ancien professeur Heidegger, aimait à citer Hölderlin, qui dit à peu près quelque chose comme là où croit le plus grand danger, croit aussi ce qui sauve. Donc, si vous voulez, la perte de la tradition, de l'autorité, est une source de très grande inquiétude et de très grand danger, mais c'est aussi pour Arendt la source d'un espoir et d'une possibilité de renouveau. Donc voilà, là où il y a une fin, il y a aussi la possibilité d'un nouveau commencement. Et ça, elle insiste énormément là-dessus, c'est même un thème central de sa pensée. Si vous voulez, je voudrais lire peut-être juste un tout petit extrait de Qu'est-ce que l'autorité, qui montre bien cette ambivalence, me semble-t-il. Donc je cite Arendt, « La perte de la permanence et de la solidité du monde, qui politiquement est identique à la perte de l'autorité, n'entraîne pas, du moins pas nécessairement, la perte de la capacité humaine à construire, à préserver et à prendre à cœur un monde qui puisse nous survivre et demeurer un lieu vivable pour ceux qui viennent après nous. » Donc si vous voulez, voilà, elle nous dit la perte de l'autorité n'est pas nécessairement la cause d'une catastrophe. Pas nécessairement, ça pourrait arriver. Mmh. Enfin, soyons clairs, Arendt dit, elle dit même d'ailleurs très clairement au fond, le totalitarisme est la conséquence de la faillite de l'autorité. Bon, c'est très clair. Mais il aurait pu en aller autrement aussi. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien de cause à effet. On n'est pas dans la causalité.
Pas de déterminisme.
Alors, chez Arendt, certainement pas. On n'est absolument pas dans le mécanisme, si vous voulez, la causalité mécanique. Donc, effectivement, c'est pas parce que l'Église n'a plus d'autorité sur la société que forcément on devient tous des nazis. Bon, je caricature, mais voilà. Mais pour autant, il y a quand même, ça a quelque chose à voir néanmoins. C'est-à-dire, elle dit aussi, les bourreaux totalitaires n'auraient pas existé si la peur de l'enfer était toujours présente, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est la problématique d'Ivan Karamazov dans Le Grand Inquisiteur. C'est-à-dire, si Dieu n'existait pas, tout serait permis. Donc, c'est-à-dire, effectivement, on a créé un enfer sur Terre parce qu'on n'a plus peur d'un enfer dans l'au-delà. Bon, oui, certainement, dit-elle. C'est vrai. Mais c'est pas pour autant qu'on doit revenir à la peur de l'enfer et qu'on doit refaire des contemporains, des enfants à qui on va faire peur en disant si tu n'es pas sage, tu iras voir le diable, etc. C'est pas sérieux. C'est pas prendre les gens au sérieux ni pour des adultes, en fin de compte, ni pour des citoyens. Donc précisément, c'est là où est notre chance, c'est que l'absence et la perte de l'autorité peut nous permettre de nous élever au rang d'une véritable humanité, d'une véritable citoyenneté, qui veut dire assumer notre condition dans le monde tel qu'il est, un monde sans Dieu, pour le dire un peu comme Nietzsche, enfin le monde de la mort de Dieu, le monde de la fin de la métaphysique, pour le dire comme Heidegger, c'est-à-dire un monde où il n'y a plus d'arrière-monde, où il n'y a plus d'autorité transcendante. Il faut se débrouiller avec ça, il faut construire notre monde, et c'est notre chance.
Un monde sans transcendance et sans tradition, ou tradition perdue, donc ce n'est plus le monde tel que le décrivait Platon, ce n'est plus le monde de l'Empire romain, ce n'est plus le monde, disons, chrétien, c'est le monde dans lequel écrit Arendt, c'est le monde après la Seconde Guerre mondiale, post-totalitaire, ce qui rend très problématique la définition même du concept d'autorité. Au fond, on disait tout à l'heure que l'autorité était à peine un concept dans la mesure où il ne pouvait pas supporter quasiment de définition. L'autorité est naturellement, d'emblée, ou bien n'est pas. Mais alors comment de ce fait, juger de la légitimité même de l'autorité. Parce qu'on a commencé en disant que c'est un concept d'abord proprement politique. Si on ne peut pas le définir ni le mettre en question, si l'autorité est ou n'est pas, comment peut-on juger du degré de légitimité de cette autorité quand elle est politique ?
Alors attendez, j'apporte une petite nuance. On peut parfaitement définir le concept d'autorité. L'autorité, si vous voulez, si on voulait le définir, c'est l'idée d'un surcroît ou d'un supplément de pouvoir. Quelque chose qui va donner une... Enfin, l'autorité, c'est un concept qui légitime l'ordre politique en le référant à un principe transcendant et extra-politique. Voilà.
Donc on retrouve la transcendance alors ?
Oui, tout à fait. Mais transcendance, ça ne veut pas forcément dire la transcendance religieuse, hein, c'est-à-dire transcendant au sens où alors, les idées platoniciennes étaient transcendantes, le monde... Oui, ça a à voir avec la métaphysique, c'est ce que je disais à l'instant. C'est-à-dire, chez Platon, il y a une autorité des idées, si vous voulez. Le philosophe, il contemple les idées, et pour lui, elles font autorité. C'est-à-dire, la vérité s'impose à lui. Voilà. Les vérités s'imposent. Ça, c'est l'autorité, par exemple. Ou bien, l'autorité, c'est le passé mythique de la fondation de Rome. 753, Rome a été fondée, et c'est ab urbe condita, c'est à partir de cet événement qu'on va mesurer le temps qui passe, qu'on va évaluer. Enfin, toute la religion romaine est axée sur l'hommage rendu au passé, aux morts, aux anciens, les majores, hein, qui sont ce qui veut dire aussi les plus grands. Les anciens sont plus grands que nous, donc c'est aussi une figure de l'autorité. Ou bien l'autorité, c'est la fondation du pouvoir des rois durant le Moyen-Âge sur le droit divin. Donc la transcendance, là, cette fois, c'est la transcendance divine, effectivement. Ou bien l'autorité, ça pourrait même être, dans nos sociétés démocratiques modernes, ce qu'on appelle les droits de l'homme. C'est-à-dire, les droits de l'homme, dans la déclaration des droits de l'homme, il est fait référence à l'être suprême et à des valeurs sacrées. Enfin, les droits de l'homme sont déclarés inviolables et sacrés. Donc ce sont des principes transcendants. Transcendants, ça veut dire, ils sont au-dessus de la société, ils doivent pas être discutés ni discutables, et on n'y touche pas. Bon. Donc on a bien cette figure de la transcendance, y compris une transcendance, si vous voulez, si je puis m'exprimer ainsi, il peut y avoir une transcendance laïque, enfin une transcendance séculière.
Celle des lois, par exemple. Parce que justement,
pas des lois, des principes.
Mais c'est pour ça que le terme transcendance est problématique. Parce que justement, Arendt essaie bien de montrer dans quelle mesure l'autorité doit être assise sur des lois au risque de devenir tyrannique. La définition du tyran est celui qui se situe au-dessus des lois. Si les lois elles-mêmes ne sont pas respectées, alors l'autorité devient illégitime.
Non, l'autorité, elle est au-dessus de la loi. L'autorité, elle fonde la loi. Donc, c'est-à-dire que la déclaration des droits de l'homme, c'est pas un texte de loi. C'est une loi fondamentale où ce sont des principes qui fondent la loi. Mais c'est pas la loi. C'est au-dessus de la loi. Vous voyez, c'est un texte qui est transcendant d'une certaine façon. C'est une charte philosophique et morale qui transcende.
Mais non, les hommes sont les auteurs.
Alors non, je ne dirais pas les auteurs, non. Les interprètes, peut-être, comme un musicien.
Et d'où viennent les droits de l'homme, si ce n'est des hommes eux-mêmes ?
Dans la déclaration, il fait référence, je vous ai dit, à l'être suprême, ou à une nature humaine intemporelle. Enfin, c'est-à-dire, vous dites les auteurs, c'est intéressant, puisque le mot auteur renvoie à la notion d'autorité, précisément. Les hommes ne sont pas les auteurs des droits de l'homme, justement. Les hommes sont pas, ils sont les interprètes au sens musical, vous voyez, comme un musicien qui va interpréter un morceau dont il n'est pas l'auteur.
Mais donc du coup, si on applique au contexte contemporain, un président qui est élu aujourd'hui, on entendait la voix de François Hollande qui se définissait comme le président normal, il n'y a aucune transcendance ici, puisque le président est le choix rationnel des électeurs qui ont voté pour lui. Donc on peut pas parler d'autorité dans un régime démocratique.
Si, pour moi, je répète ce que je dis. Si, il y a une transcendance. La transcendance, c'est notre idée des droits de l'homme, notre idée de l'homme. Nous avons une idée de l'homme qui est un substitut de religion. Il y a une sorte de religion des droits de l'homme et c'est notre transcendance à nous. Et ces principes sont considérés comme transcendants, justement, à l'organisation politique. Quelle que soit l'organisation politique dans laquelle on est, quand on est dans une démocratie, dans un état de droit, on doit faire en sorte que les lois soient respectueuses des droits de l'homme. Donc les droits de l'homme sont au-dessus des lois, si vous voulez. Voilà. Et ça, c'est bien une transcendance. Et ça, c'est un principe d'autorité. Bon, mais le problème, c'est que malgré tout, c'est une autorité qui n'est pas, si vous voulez, qui n'a pas la même... c'est une sorte de substitut peut-être d'autorité, parce que c'est une autorité qui n'a pas la même majesté, si je puis dire, pour reprendre le terme de Machiavel, la majesté de l'État. C'est-à-dire, cette autorité n'a pas la même majesté que pouvaient avoir les autorités traditionnelles ou anciennes. C'est-à-dire, pour les Romains, la fondation romaine est un événement majestueux, si je puis dire. C'est-à-dire qui de lui-même suscite le respect devant lequel on s'incline. C'est ça. L'autorité, c'est ce devant quoi on s'incline. Bon. Alors, on s'incline devant la fondation romaine. Un Romain, il s'incline devant les institutions parce qu'elles sont respectables. Voilà. Ça, c'est l'autorité. Les droits de l'homme, évidemment, c'est plus compliqué parce que l'homme est invité à s'incliner devant lui-même, comme vous l'avez dit, en quelque sorte. Mais il s'incline, enfin là, je reprends la formule pascalienne, l'homme passe infiniment l'homme. C'est-à-dire, s'incliner devant l'homme, c'est s'incliner quand même devant quelque chose de plus grand que soi-même, en même temps, d'une certaine façon. Il y a quelque chose... Peut-être, encore une fois, je l'ai dit, même de religieux, hein, dans cette idée des droits de l'homme, c'est-à-dire d'une transcendance qui dépasse simplement le cadre institutionnel, juridique et politique. C'est-à-dire, l'homme n'est pas seulement l'œuvre de l'homme.
C'est-à-dire que pour que l'autorité politique puisse être respectée aujourd'hui, c'est-à-dire au moment où écrit Arendt et même encore aujourd'hui, puisque ses réflexions sont encore tout à fait valables en 2016, hein, il faut ne pas dissocier la conception que l'on se fait de l'autorité de celle d'une forme de transcendance ou d'une sacralité. Et c'est ça qui manquerait aujourd'hui.
Bah, qui manque, oui et non. On le tient avec cette idée des droits de l'homme, mais en même temps, c'est... Après, on discute. Enfin, personne, me semble-t-il, ne discute sur le respect des droits de l'homme.
C'est pas la question des droits de l'homme. En termes de représentation politique, pour le coup, c'est pas la question des droits de l'homme qui est en jeu.
Oui, mais c'est
ça. Je parle de l'autorité politique aujourd'hui telle à laquelle on assiste en France, par exemple, aujourd'hui.
Oui, mais d'une certaine manière, enfin, je veux dire, le chef de l'État, il est garant des institutions, il est garant de l'État de droit, et l'État de droit, c'est l'État qui veille à respecter, justement, les droits individuels de l'homme, c'est ça. Donc c'est ce qui fait sa légitimité, c'est ce qui
Donc il n'y a pas de crise de l'autorité, alors?
Ben, oui et non, parce que ce que je vous disais à l'instant, c'est que ce qui fait l'objet de la discussion, c'est pas tellement le principe des droits de l'homme, c'est leur contenu. Quels sont les droits de l'homme qu'on peut et qu'on doit revendiquer légitimement? C'est-à-dire, jusqu'où on va? Alors, est-ce qu'on a des droits de l'homme qui sont purement juridiques et politiques? Est-ce qu'on a des droits de l'homme qui sont économiques et sociaux? Est-ce que respecter les droits de l'homme, ça veut dire respecter la culture de chaque individu? Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on doit aller jusqu'à permettre à chacun de s'habiller, de manger, de traiter son semblable comme il l'entend, etc.? Bon, jusqu'où est-ce qu'on doit aller? Donc, la discussion ne porte pas sur le principe des droits de l'homme. Tout le monde est d'accord. Ou presque, enfin les démocrates en tout cas, mais par contre la discussion est très farouche quant à définir le contenu de ce qu'on entend par droit de l'homme, et le contenu concret qu'on va donner à ce principe.
Si nous prenons à la lettre l'esprit de la Constitution, que pensaient les pères fondateurs? Ils pensaient s'être libérés d'abord de la domination de la majorité. C'est pourquoi ce serait une grave erreur de penser que ce que nous avons est une démocratie. Ce que nous avons ici, c'est un système républicain. Les pères fondateurs s'attachaient surtout à préserver les droits des minorités parce qu'ils estimaient que dans un corps politique sain, il doit y avoir une pluralité d'opinions. Ce que les Français appellent l'union sacrée était précisément pour eux ce dont il ne fallait pas. Ce serait déjà une sorte de tyrannie, et le tyran pourrait très bien être une majorité. Par conséquent, le système politique tout entier est organisé de telle façon que même après la victoire de la majorité, il y a toujours une opposition. Cette opposition est nécessaire car elle représente les opinions légitimes d'une ou de plusieurs minorités.
Voilà, on retrouve la voix d'Anna Arendt qui avait ouvert cette émission, Jean-Claude Poisat. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle reprend l'exemple américain en disant que ce que les Français nomment union sacrée est précisément ce dont les Américains ne voulaient pas, parce qu'ils tiennent justement à cette opposition nécessaire au bon exercice républicain entre la majorité et la minorité, pour ne pas tomber dans le risque de la tyrannie de la majorité. On voit ici que finalement la notion d'autorité n'est peut-être pas la plus pertinente pour penser un système républicain digne de ce nom.
Ben, les États-Unis sont justement le bon exemple pour Arendt, puisque au fond, je disais tout à l'heure, dans la politique romaine, on a une distinction classique entre pouvoir et potestas et auctoritas, donc pouvoir et autorité, qui tient dans le fonctionnement des institutions. Hein. Polybe admirait beaucoup la constitution donc de la République romaine, parce que elle aurait permis justement de distinguer les tribuns du peuple, le Sénat et le pouvoir des consuls. Donc, mais Arendt finalement trouve aussi dans la politique américaine, enfin dans l'organisation institutionnelle américaine, un équilibre des pouvoirs qui lui semble remarquable. Et précisément, elle dit, dans l'organisation des pouvoirs aux États-Unis, il y a une institution qui exerce l'autorité et qui précisément n'exerce pas le pouvoir, qui est la Cour suprême. Et la Cour suprême, eh bien, elle représente ce principe, justement, d'une sorte d'autorité transcendante qui affirme des principes, qui est là pour garantir le respect des principes et qui peut donc, sans avoir de pouvoir exécutif, justement, mais qui peut faire respecter un ordre juridique et politique. Donc, il est possible, et les États-Unis sont un exemple privilégié, évidemment, pour Arendt, de retrouver une figure positive de l'autorité dans la pensée, enfin, dans la théorie et dans la pratique politique moderne.
Thank you. nation of all the evil that will have to end.
Un grand merci à vous, Jean-Claude Poitta, d'être venu nous parler d'Hannah Arendt aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie.
Je renvoie à votre ouvrage, l'introduction à Hannah Arendt, qu'on trouve en pocket édition La Découverte. Et puis, plus récemment, Au bord de l'eau, vous avez écrit Intellectuels et Juifs en France aujourd'hui. C'était publié en 2014. La crise de la culture, elle, se trouve en folio-essai dans la traduction de 72. Et puis, je le citais en début d'émission, en milieu aussi, nous sommes partenaires de Philosophie Magazine, qui consacre ce mois-ci un hors-série à Hannah Arendt. Justement, Hannah Arendt et la passion de comprendre, la banalité du mal, le totalitarisme, la transmission, le travail, l'autorité, à découvrir en kiosque. C'est avec la révolution de Nina Simone que nous nous quittons. Vous écoutez France Culture, le nouveau chemin de la connaissance. Il est 10h51. Encore 2 minutes, papillon. Il est l'heure de retrouver, comme tous les jours, Géraldine Le Saint-Savoie.
Destroy. Die. Attack. Threats from a gang of computer hackers calling themselves Anonymous.
I've had 7 different passwords and they've got them all so far.
They attack innocent people like an internet hate machine.
We are Anonymous. We are strong. We do not forgive.
Le 27 juillet 2007, la chaîne américaine Fox News diffusait ce reportage sur une entité encore inconnue et qu'elle baptise alors la machine de haine d'Internet. 2 jours plus tard, cette fameuse entité décide de se nommer elle-même. Elle poste une vidéo sur YouTube où l'on voit un homme en costume sans tête sur fond blanc déclarer ceci. Cher Fox News, le nom et la nature d'Anonymous ont été souillés comme une putain dans une ruelle, puis livrés au regard du public. Vous n'avez absolument pas compris qui nous sommes et ce que nous sommes. Nous sommes tout le monde et nous ne sommes personne. Voilà qui était donc dit, mais qui n'était pourtant pas nommé. Passé de l'inconnu à l'anonymat, cette entité faisait de cette absence de nom une force, à la fois partout et nulle part, à la fois puissante et insaisissable. Et bien cette question de l'anonymat, c'est aussi celle qui guide le livre de la Canadienne Gabriella Coleman. Dans cette enquête d'anthropologie, immersion passionnante sur plusieurs années dans le monde des Anonymous, elle finit comme elle ouvre son propos, c'est-à-dire par se demander qui sont ces Anonymous. Alors on pourrait voir dans cette conclusion sans réponse un échec, et pourtant ne pas trancher cette question, c'est aussi laisser agir l'imagination. Ne pas dire ce qu'il y a sous ce masque, c'est assumer le masque et son rire grinçant. Ce n'est pas laisser la place ni à l'explication ni au chaos, mais à une nouvelle forme d'organisation, dynamique et aux ramifications infinies. Laisser la place à des mots encore neufs et fascinants comme geek, lulz ou nerd, et puis c'est surtout laisser la place à cette narratrice, Gabriella Coleman, un personnage à elle toute seule qui nous offre un morceau d'identité narrative, faite de paranoïa, de joie d'appartenir à un groupe et celle de se retrouver enfin soi, simple, anonyme.
Ça donne envie, rappelez-nous le titre du livre.
Anonymous, tout simplement, c'est donc de Gabriella Coleman et c'est paru aux éditions Luxe.
Merci beaucoup Géraldine et merci à tous. Les nouveaux chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à la crise de la culture d'Hannah Arendt. Avant la crise de l'éducation, mercredi, et qu'est-ce que la liberté, jeudi, et bien demain, ce sera de la conquête de l'espace et la dimension de l'homme que nous parlerons. Et oui, c'est le 8e article de ce recueil dont on parle moins et qui est pourtant passionnant. C'est Michel Eltoninov qui viendra vous en parler. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rien de plus simple. Rendez-vous sur le tout nouveau site de France Culture, à la page des nouveaux chemins de la connaissance. Vous pourrez non seulement réécouter l'émission et puis avoir toutes les informations bibliographiques et musicales et filmographiques concernant l'émission du jour, mais également vous pourrez la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et l'équipe des nouveaux chemins vous donne également rendez-vous sur leur compte Facebook et Twitter, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour.